Merci Père Céleste pour ta gloire, pour ton esprit qui est là au milieu de nous. Et c'est encore tout tremblant ce matin que je viens devant toi et que je veux invoquer ta grâce. C'est encore une fois où je me sens bien faible pour partager l'immensité de ton cœur, Père. Tu es si grand, Seigneur, tu es si glorieux, tu es si bon, Tu es tant amour, comment partager ces choses, moi qui aurais l'éternité pour cesser de m'émerveiller devant toi. Viens par ta grâce, Père de gloire. Répands sur moi et sur mes bien-aimés, dans le nom de Jésus, ton bon esprit, ton esprit de sainteté pour nous parler de ton cœur ce matin et cet après-midi. Nous encourager. Donne-nous un puissant encouragement par tes promesses, par ta parole, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Un puissant encouragement ce matin. Merci pour ce Dieu d'amour que tu es, pour ce Père céleste que chacun de nous avons. Que ton nom soit glorifié et que tu daignes venir bénir ces instants. Amen. Le prophète Ésaïe a prophétisé ceci: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et on voit que l'apôtre et l'évangéliste Matthieu, au premier chapitre de son évangile, verset 23, reprend mot pour mot cette prophétie en disant: « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». L'inspiration qui est venue sur Matthieu lui a donné de dire « On lui donnera le nom d'Emmanuel ». Exactement comme dans cette prophétie d'Ésaïe, et de rajouter ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et je peux que vous dire que dans mon cœur, je me sens bien faible et misérable pour vous parler de cette signification de l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Encore dans la prière, je me rendais compte que je ne toucherai pas au but, que je n'arriverai pas à transmettre ce que le Seigneur mettait dans mon cœur, et j'espère simplement, en particulier ce matin, que vous recevrez un puissant encouragement, comme le dit cet Épître aux Hébreux, et cet après-midi, une profonde conscience de tout ce qu'est notre Dieu, au travers un survol des Écritures qu'on fera, de voir ô combien il est l'Emmanuel. Et ma prière, c'est que Dieu enlève des écailles de nos yeux, qu'il continue de le faire dans ma vie, pour qu'on arrive à réaliser, depuis la création, le simple fait d'avoir créé cette terre et l'homme, il est déjà là, en plein l'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu qui veut notre bien, Dieu qui veut un homme debout, qui l'adore et qui est avec lui. Dès la création, et ceci jusqu'au bout. J'aimerais commencer par lire, vous pouvez prendre avec moi, Apocalypse chapitre 21. Avant de rentrer à proprement dit dans la prédication, j'ai à cœur de lire ces quelques versets avec vous, qu'on relira peut-être cet après-midi, qui nous parlent de tout ce cœur de Dieu, de tout ce qu'il y a, de toute éternité, avant même la création du monde. Et la création du monde n'est qu'une preuve qu'il est l'Emmanuel, qu'il veut être avec nous. Qui lui a demandé de créer ? Personne, c'est lui-même. Qui lui a demandé de nous sauver ? Personne, c'est lui-même. C'est toujours de sa propre initiative que Dieu a tout fait, comme on va le voir de la Genèse à l'Apocalypse. C'est toujours lui qui a fait le premier pas vers l'homme. Et c'est lui qui fera le dernier pas vers l'homme. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oh, vous savez, des fois, on entend des justes prédications que nous sommes cette épouse qui doit se préparer, être pure et sans tache pour la venue du Seigneur. Alors on entend à juste titre qu'on doit purifier nos cœurs, mourir à nous-mêmes. Mais parfois, on oublie quel privilège d'être l'épouse du Dieu de gloire. Et que cette Jérusalem, elle va venir pour nous comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Les hommes et les femmes déchus que nous sommes, on a besoin qu'il y ait des écailles qui tombent de nos yeux. D'où vient ce privilège? Quelle grâce! Déjà, comme le dit le psalmiste, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'homme avec pourtant un cœur qui, sans une action de régénération de son cœur, a une haine contre Dieu, n'aime pas Dieu. Vous voyez, il y a une personne qui m'a parlé dernièrement d'un ami à lui qui avait fait un grave accident de voiture où il a perdu sa femme et son fils. Et cette personne, elle ne peut plus entendre parler de Dieu. Voyez-vous ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? On aurait besoin que des écailles plus épaisses que les cieux tombent pour qu'on voie sa bonté, son amour, sa grâce. Parfois, on aurait besoin aussi que des écailles plus épaisses que les cieux aussi tombent pour qu'on puisse voir l'action du prince de ce monde, qu'est Satan, l'adversaire, le diable, et pour voir aussi la misère de notre chair, de notre égoïsme, de notre moi rebelle à ce Dieu d'amour et de bonté. Et c'est inscrit dans le cœur des gens de mettre la faute sur Dieu, se dire finalement que Dieu n'est pas bon. On a besoin d'un bouc émissaire, et le bouc émissaire, c'est celui qui s'est fait bouc émissaire. C'est celui qui s'est donné lui-même pour nous sauver. C'est le plein monde à l'envers, vous voyez. Je prie que par cette prédication, Dieu puisse planter dans nos cœurs qu'il est l'Emmanuel, qu'il est avec nous, qu'il est avec l'homme, qu'il est un passionné d'amour, qu'il est un passionné pour nos cœurs. Aussi injuste cela est. Parce que quand on voit le cœur de l'homme, et plus on s'approche de Dieu, plus on médite sur notre propre cœur et sur le cœur de cette humanité pécheresse, plus on se rend compte que cet amour de Dieu, il n'y a rien de plus injuste finalement. Pourquoi un tel Dieu saint doit s'abaisser pareillement pour mendier l'amour d'un homme si pécheur? Et son amour dépasse les bornes, et c'est pourquoi ce nom qui lui a été donné, lui qui est venu se faire pécher, prendre le péché du monde et mourir comme un ver et non comme un homme, est l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Essayez de voir cette voix d'un ange certainement qui crie d'amour. Voici, enfin, c'est tout ce que Dieu avait dans son cœur depuis la création. Voici enfin le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. Voici enfin ce tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est tout le but de Dieu, d'être avec nous. C'est tout ce qu'il y a dans son cœur. Sinon, on va méditer un peu brièvement l'histoire du salut. Il n'aurait pas fait tout ça parce qu'il a du temps à perdre, vous voyez. Depuis ce sacrifice qui a dû être fait pour revêtir Adam et Ève d'habits de peau, jusqu'à cette recréation, Dieu n'a eu cesse d'agir dans l'histoire des hommes comme l'Emmanuel. Et il l'a fait pour un seul but, être pleinement avec nous. C'est tout ce qu'il y a dans son cœur. Écoutez ça, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles qu'on vient de lire, là, elles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est fait. Je vais vivre avec eux. Je vais être pour toujours avec eux. Je vais essuyer toutes larmes. Et on fera plus qu'un. On sera enfin cet Echad parfait, cette unité. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Gratuitement, je donnerai tout. Toute la vie. Toutes ces sources d'eau vive. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Elle sera ma fille. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, frères et sœurs. Dieu avec nous. Vous voyez, la parole aux Hébreux, je vous dis rapidement les références. Hébreux 4, 12 nous dit ceci, vous le connaissez bien. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu, elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole, c'est une épée. Il n'y a pas épée plus tranchante. Elle vient, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Le prophète Jérémie, chapitre 23, verset 29. Laisse Dieu dire, ma parole n'est-elle pas pareille au feu ? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ? Oui, frères et sœurs, la parole est une épée. La parole est un feu qui consume tout. La parole est un marteau qui brise le roc. Elle l'est sans aucun doute et on en a besoin. On en a besoin pour que cet être inique, ce vieil homme, cet égo rebelle, soit mis à mort, qu'il soit détruit, écrasé. On a besoin de la vérité pour être convaincu de péché, pour être humilié par la vérité de ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes ? On est des êtres déchus qui n'aiment pas Dieu spontanément. C'est la vérité. Et on a besoin de cette épée qui juge nos sentiments, nos pensées du cœur. On a besoin de ce marteau. On a besoin de ce feu pour accepter qu'on est beaucoup plus ancré sur cette terre, sur cette poussière, dans notre chair corruptible, que dans le ciel, dans la gloire. Et dans l'esprit, nous affectionnant aux choses de l'esprit, on a besoin de cette parole qui tranche, qui est jugement. C'est ce que dit Jésus, vous pourrez lire au chapitre 12 de l'évangile de Jean, versets 46 à 48. C'est sa parole qui nous jugera au dernier jour. Sa parole est un jugement sur nos vies, mais dans ces mêmes versets, si la parole qui n'est pas écoutée nous jugera au dernier jour, lui qui est la parole, Jésus, dans toute sa plénitude, il nous dit qu'il est venu non pour juger, mais pour sauver. Cette parole de vérité dont on a besoin pour être convaincu de péché, de justice et de jugement, elle nous est donnée pour planter et provoquer quelque chose au plus profond de nous qui s'appelle le salut. Le salut par la pure grâce de l'Emmanuel qui a dit « Voici, je viens pour faire ta volonté. Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. » Si sa parole est un feu, si sa parole est une épée, si sa parole est un marteau, lui, le Messie, l'Emmanuel qui est venu, il est le chemin, il est la vérité, mais il est aussi la vie. Il est aussi la plénitude de la vie. Jean 10, verset 10, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Quelle est la vie en abondance ? Dieu ne prend pas plaisir à châtier, nous dit la parole. Aucun plaisir même. Vous pouvez même lire dans les prophètes qu'il se cache pour pleurer quand il est obligé de juger parce qu'il est l'Emmanuel et qu'il aime et qu'il ne veut pas que l'homme se perde, mais qu'il vive. Mais qu'il vive, qu'il puisse goûter à sa gloire, qu'il puisse essuyer toute l'âme de ses yeux et faire qu'un avec lui. Alors, bien-aimés, comprenons bien que notre vieil homme de péché, cette loi de péché qui lutte dans nos membres, qui doit être brisée par cette parole et par le feu, doit, comme vous le lisez dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, reconnaître notre vieil homme pécheur doit reconnaître pour être affranchi par cette vérité qu'il a besoin de cette parole de jugement, mais pour un but et un seul but, qu'il y ait alors un homme nouveau, que naisse notre vraie identité, notre vraie position en Christ, dans le Messie, notre vraie vie, notre seul sens de vivre. Qu'il se lève, cet homme nouveau qui va dire Amen de tout son cœur à toute parole de jugement et de vérité sur son être déchu, dont il va tout à coup être désidentifié. Désidentifié. Et on doit absolument comprendre ainsi que la parole de Dieu et Dieu lui-même, s'il est là pour nous briser, il est là aussi pour nous recréer. S'il est contre notre vieil homme, Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueilleux qui souffre, qui n'y arrive pas, ce n'est pas le diable qui l'attaque, c'est Dieu lui-même qui résiste aux orgueilleux. Et sa parole vient pour le trancher. Vous pouvez lire ces paroles de Jacques. Je vous laisse juste pour les noter, Jacques chapitre 4, versets 1 à 10. Prenez avec moi le psaume 42. Parfois, vous voyez, ça peut paraître simple et couler de source, mais on a besoin d'absolument voir clair, frères et sœurs, voir clair que Dieu ne prend pas plaisir à châtier, qu'il n'y a rien de plus dur pour son cœur, mais qu'on a besoin de cette épée, on a besoin de ce marteau, mais qu'il a un but, et son but, c'est recréer un homme nouveau qui va dire « Amen », qui quand il va entendre l'épée, il va dire « Amen », sabre, sabre, il ne va même plus dire « sabre moi », il va dire « sabre celui que je ne suis plus », c'est par moi, par cette épée, pour me recréer, et ainsi la parole de Dieu devient une puissance, non pas de brisement, mais de reconstruction. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Vous pouvez garder votre doigt sur ce psaume. Et je vous lis cette parole qui résume la vocation de Jérémie tout au long de sa vie. Le pauvre Jérémie, fidèle au Seigneur, adorant le vrai Dieu avec son feu qui brûle dans son cœur, doit donner des paroles de jugement sur la perfide Judas qui ne veut pas se repentir. Toute sa vie, il est appelé à donner le jugement de Dieu à ce peuple qu'il aime. Voyez ce que Dieu lui dit. Il lui dit, regarde, verset 10, chapitre 1, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Est-ce que j'aimerais que l'Esprit de Dieu plante en nous ce matin, c'est que si on doit reconnaître le besoin absolu d'être arraché, abattu, ruiné et détruit, c'est parce que Dieu veut bâtir et Dieu veut planter, et veut planter puissamment, recréer cet être nouveau qui va être, comme je le disais, désidentifié de tout ce qui est sa chair, de tout ce qui est son vieil homme, un homme libre qui va dire, comme le psalmiste, on peut lire le verset 6 du chapitre 42 de ce psaume, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Vous voyez comme le psalmiste parle à son âme déchue, celle qui a été séparée par l'épée, qui s'abat. qui tombe dans la dépression, dans la tristesse, dans l'orgueil, dans tout ce que vous voulez. Il lui dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Fais ce que tu veux. Si je dois faire la volonté de Dieu et que tu me pousses à aller manger, pour prendre un exemple tout bête, fais ce que tu veux, va manger, va voir ailleurs si j'y suis. Mais moi, mon pain, c'est de faire la volonté de Dieu. » Si tu veux être triste, moi, ma vie, c'est d'espérer encore en l'Éternel. Et je le louerai encore. La parole de Dieu est venue briser quelque chose dans ma vie pour que je ne sois plus le contrôlé, mais le contrôleur de ma vie, le contrôleur de mes sentiments, le contrôleur de mes appétits, le contrôleur de mes pensées, le contrôleur de tout ce qui me pousserait à aller contre Dieu pour être celui qui va contrôler la machine de l'amour, la machine de la vie, la nouvelle création qui n'a pas été créée pour autre chose que d'adorer et de vivre éternellement dans cette Jérusalem céleste. Et si la parole de Dieu fait son œuvre de destruction et alors fait son œuvre de régénération, on va dire comme le psalmiste, « Pourquoi t'as battu mon âme ? J'ai mis tu au-dedans de moi, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Verset 7, « Mon âme est abattue au-dedans de moi ?» Aussi, c'est à toi que je pense, à Dieu. C'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Tu as battu, mais moi qui suis recréé, je regarde à l'Emmanuel. Je regarde depuis le Jourdain, sud d'Israël, jusqu'à l'Hermon. Tout ce Jourdain qui, depuis le sud de la mer Morte, je vois cette plaine. Je vois ces montagnes de Judée, je passe dessus, je vois cette Galilée, je monte jusqu'à l'Hermon et je rappelle toutes tes œuvres. Je me souviens de toi et je me souviens que tu es avec moi pour pas que je me laisse abattre par la parole qui me tranche, mais pour qu'un feu indicible vienne dans mon cœur et que je me lève et que je marche et que je remplisse cette vocation extraordinaire que tu m'as adressée. On peut lire ensemble Ésaïe chapitre 57. Ésaïe 57, verset 14. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Enlevez tout obstacle, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Vous entendez ? Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. Et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. J'ai été l'Emmanuel pour les faire. J'ai été l'Emmanuel pour les juger, pour leur dire la vérité qu'ils ont absolument besoin d'entendre, pour produire la repentance, condition du salut. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je ne veux pas contester à toujours. J'ai fait ça pour ranimer, frères et sœurs, pour être avec celui qui est contrit. Et lorsque la parole de Dieu, elle a fait cet effet de véritable contrition devant le grand Dieu qu'on doit craindre, frères et sœurs. Quand ce marteau, il a fait son œuvre, alors Dieu crie, enlevez maintenant tout obstacle. Enlevez tout obstacle. Tu es contrit, tu es humilié, tu acceptes parce que tu as l'amour de la vérité, ton état de cœur, ton état de péché, ta vie qui, si tu te laisse sonder en vérité par moi, n'est pas la gloire de Dieu. Tes attitudes qui ne sont pas à ma gloire, tes actions qui ne sont pas à ma gloire, et ô combien de le monde dans lequel on vit, on a besoin de se laisser sonder par l'esprit de sainteté de Dieu. Comme Jacques 4, verset 1 à 10, pour voir qu'on est beaucoup plus adultère que l'on croit. Mais quand la parole fait son effet, alors, bien-aimé, il faut enlever tout obstacle de fausseté pour qu'on puisse vivre pleinement ce salut de Dieu, pour qu'on puisse bondir et le servir sans crainte. On a besoin de la crainte de Dieu pour descendre en nous-mêmes, pour renaître afin de le servir sans crainte. Ah, ça paraît paradoxal. Seule la personne qui vit l'Évangile, comprendra de manière absolument claire ce que je viens de dire. Elle ne perdra pas la crainte de Dieu, mais elle sera libre et elle le servira sans crainte. Comme l'a prophétisé Zacharie, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, l'ennemi de nos âmes, premièrement, cette alliance qui a été préparée au fil des siècles, qu'il avait juré à Abraham, notre père, c'est qu'une fois qu'on serait délivré de nos ennemis, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et je crois, bien-aimé, qu'il y a parfois, subtilement ou pas subtilement, un obstacle, et Dieu dit « Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple ». Il y a un obstacle dans nos vies, c'est de ne pas croire que Dieu est avec nous. C'est de rester dans cette position d'une mauvaise conception de Dieu ou d'une réflexion exagérée qui n'est pas le repentir de Dieu et de ne pas croire et de ne pas permettre au Saint-Esprit ou à nous-mêmes d'avoir ce déclic qui permettra au Saint-Esprit de nous recréer, de nous rebâtir, de nous planter dans la vie nouvelle. Souvent, la parole de Dieu dont on a absolument besoin fait son effet, mais nous tient dans une position qui l'empêche d'arriver à son but. Vous comprenez? Et ça, c'est un des plus grands obstacles, à mon avis. Il y a malheureusement peu de prédication de vérité dans le peuple de Dieu. On prêche presque plus le péché. Alors, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde ce que je raconte. Mais quand on prêche par la sainteté de Dieu, le péché, la vérité du vieil homme, de la chair, il y en a que ça peut clouer au sol. Voyez. Mais le vieil homme doit être cloué au sol et on doit comprendre que ce marteau, il est fait pour rebondir et pour planter un clou beaucoup plus haut. Un clou qui va traverser les cieux, frères et sœurs. Et une personne qui va dire « Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. » C'est là ma position. Et cet obstacle d'une mauvaise conception de Dieu, j'aimerais en dire quelques mots, est planté dans vos cœurs. Que Dieu, c'est faux qu'il reste en colère. Dieu se met en colère pour nous sauver. Il ne prend pas plaisir à châtier. Et quand les sentiments de ton cœur sont jugés, pourquoi tiens-tu? Pourquoi restes-tu telle une personne qui se fait électrocuter, qui va garder sa main sur ce fil? Pourquoi tiens-tu ton péché? Pourquoi tiens-tu dans ton vieil homme? Laisse-le à terre et entends la voix de celui qui dit « Mon nom signifie « Moi avec toi ». Je suis pour toi, avec toi, je t'aime, je suis un père ». J'ai tout fait, j'ai donné mon fils pour mettre le feu dans ton cœur. Je te juge parce que c'est vérité que tu en as besoin. Mais alors lâche et se lâcher prise pour bondir. Parce que c'est là mon but. Mon but, c'est de ranimer ton esprit. Mon but, c'est de ranimer ton cœur. Mon but, c'est que tu aies la vie et la vie en abondance. Mon but, c'est de te faire vivre. Et ne pas te laisser dans une fausse crainte de Dieu, dans un apitoiement sur toi-même, ou dans une fausse conception d'un Dieu dur que tu dois craindre, non pas par la crainte qui viendra sur toi par le Saint-Esprit et qui sera bonne et que tu aimeras, mais par la peur. Et ma prière pour cette prédication, bien-aimée, c'est qu'elle soit un puissant encouragement pour les cœurs humbles. Un encouragement qui va ranimer la flamme de la vie et de l'amour de Dieu dans les cœurs. Un encouragement qui va prouver, grâce au souvenir de Dieu, à faire mémoire de qui est Dieu, de ô combien il est l'Emmanuel avec nous. Et que cela puisse nous donner des ailes plus fortes, plus belle, plus vigoureuse, plus joyeuse, plus passionnée pour nous envoler, frères et sœurs, pour voler pour lui jusqu'à ce qu'il vienne. Job, chapitre 5, verset 18, dit ceci. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. La vraie prédication, elle doit nous briser, mais dans le seul but de nous relever, de nous guérir, de nous sauver, de nous propulser en avant. Je vous lirai rapidement ces versets de la lettre de Jacques au chapitre 1, qui dit, vous connaissez bien cette parabole, pourrait-on dire, du miroir. Elle dit, mais celui, verset 25, chapitre 1, verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de quoi ? La loi de la liberté. La loi, elle est là pour nous convaincre de péché. Elle est là pour que toute bouche soit fermée devant Dieu. Mais la bouche doit être fermée devant Dieu pour que la bouche que Dieu va mettre dans cet homme nouveau s'ouvre et que Dieu la remplisse, frères et sœurs. La loi, elle fait que toute bouche soit fermée, mais pas pour que nous soyons emprisonnés, mais pour que nous mourions et que nous revivions, que nous sortions justement de cette prison dans laquelle nous sommes prisonniers. On est tous des esclaves à cause de notre chair. Et on ne voudrait pas que le marteau de Dieu nous parle de notre chair. On est tous des esclaves. Quand on est orgueilleux, on n'est pas libre. On est tous des esclaves du péché. Et Dieu donne sa loi. Ce que disaient des hommes de réveil, on devrait prêcher 90% la loi pour permettre aux vrais 10% de la grâce de faire une œuvre réelle dans les cœurs. Mais aujourd'hui, je veux vous prêcher la grâce. Parce que c'est pas, si j'ose le dire de manière franche, ce n'est pas parce que dans l'Église, aujourd'hui, globalement, parce qu'on ne peut pas juger, on peut donner des sentiments qui, je pense, ne sont malheureusement pas si faux. On prêche très peu la loi. On prêche que Dieu est amour. On a de plus en plus un faux évangile de l'amour qui s'écarte de la Bible, qui s'écarte des Écritures. J'en parlais encore avec un pasteur hier, au combien on n'enseigne plus la Bible. Je disais que j'étais allé prêcher dans une église et que quand je citais les prophètes, j'avais l'impression que je parlais de quelque chose qui les choquait ou qu'ils n'avaient jamais entendu. On se détache de plus en plus de la Bible et me disait, on croit que les chrétiens lisent leur Bible, mais ils ne la lisent même plus. Ou alors ils lisent que le Nouveau Testament et on ne connaît pas Dieu. Et ainsi, l'évangile véritable de Dieu ne fait pas œuvre dans les cœurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit plus prêcher le vrai amour de Dieu, la vraie grâce de Dieu. Parce que si on a besoin d'être crucifié, on a aussi besoin d'être ressuscité dans le Messie. Et c'est ce que dit Jacques. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, comment il sera ? Il sera heureux dans son activité. Il sera heureux, celui qui met en pratique, celui qui marche, celui qui vit. Il va voir la vie que Dieu veut pour lui. Il va goûter la vraie vie que Dieu veut pour lui. Il va savoir qu'est-ce que ce si grand salut de Dieu. On peut faire du mal en prêchant en particulier la sanctification. On peut faire du mal si on donne aux auditeurs ou bien... Et ça peut être l'un et l'autre. Les auditeurs ont eux-mêmes une mauvaise conception de Dieu. J'ai eu prêché sur l'amour de Dieu, sur l'amour du Père. Des personnes parmi nous ici ont dit, mais jamais j'avais entendu parler d'un Dieu comme ça. Pas le papounet d'amour, le papa d'amour, mais le vrai Père qui t'aime du plus profond de lui-même et qui donnerait sa vie pour toi. À prêcher l'amour de Dieu, on bafoue son amour, vous savez. On passe du papounet, alors qu'on a un service d'or, comme vous voyez, ces pierres de jaspe, etc., briller dans la Jérusalem céleste. On nous sert de la dinette, frères et sœurs. Et en plus de la dinette bon marché, qui casse dès qu'on joue avec, et qui ne nous permet pas de saisir l'espérance qui nous a été donnée et préparée à la face des peuples, au fil des siècles, par le Dieu d'Israël. Et cet amour, le véritable, on doit en parler. On n'a pas un Dieu qui voudrait contester à toujours. C'est plutôt tout l'inverse qui est dans son cœur de père. Retenez fortement dans vos cœurs que le jugement de Dieu, la correction de Dieu, vous pouvez lire le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, il vient de son amour de père. Il vient que de son amour de père. Un père qui doit éduquer son enfant ainsi qu'une mère ne prend pas plaisir à dire non, ne prend pas plaisir à éduquer, à corriger. C'est un total don de lui-même. C'est des fois bien plus facile de passer sur des choses, de faire même comme si on n'avait pas vu, plutôt que de confronter pour l'amour de l'enfant et pas d'une autre. C'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et rien d'autre. C'est ce qu'il y a dans le cœur d'un vrai prédicateur et rien d'autre. Un prédicateur qui parle dans le feu de Dieu et quand il sort et qui s'allonge sur son lit, qui pleure. Par contre, si on prêche la sanctification avec dureté, sans la vie de Dieu, sans la prière, sans l'amour véritable, on peut faire mal, on peut briser, on peut empêcher la personne d'arriver au but qui est de se relever. Dieu n'a qu'un but, nous sauver, nous transformer, pour nous propulser en avant, pour nous ranimer, pour faire de nous, j'écrivais, frères et sœurs, des enfants pleins de sève et verdoyants. Pleins de sève et verdoyants. C'est comme quand on taille un arbre, vous voyez. On taille un arbre pour qu'il reparte de plus belle, n'est-ce pas ? Pour qu'il bourgeonne au printemps. On ne taille pas un arbre pour le tuer. Dieu nous taille pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit libre et pour qu'on porte du fruit. J'aimerais dire un mot sur la vraie sanctification de l'Emmanuel, du vrai Dieu. Tel est son nom. Elle vient de l'amour. Elle vient de l'amour de Dieu. Elle vient d'une envie, vous comprenez ? Une sainte envie. Elle vient d'une passion, la sanctification. Elle vient de la grâce de Dieu dans mon cœur, parce que je me souviens de lui, parce que je le connais et parce que je l'aime. Et quand on aime, on a envie de tout donner, frères et sœurs. Quand on aime, on n'a pas envie d'être autre chose que d'être avec la personne que l'on aime. Quand on aime, on pourrait courir, faire des kilomètres pour répondre au cœur de la personne. Quand on aime, on a envie d'être transformé, d'être changé. On a envie, pas par un devoir, mais par le fond de notre cœur, de plaire à notre bien-aimé ou à notre bien-aimé. On veut se dépouiller de tout ce qui l'empêche de vivre. Comme Christ s'est dépouillé de sa gloire et a fini par être nu devant les hommes crucifiés. Voyez en quoi consiste l'amour de Dieu. Quand on aime, on donne tout. Et la sanctification, elle doit venir du plus profond de notre cœur. Elle doit venir d'une passion, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on l'adore, pas parce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi la conception qu'on a de Dieu, elle est capitale. Et qu'il est capital de prêcher qui est Dieu, et qu'il est l'Emmanuel, et qu'il est un Père, et qu'il est amour, et qu'il est avec nous, parce que ça doit embraser nos cœurs d'un feu qui va bondir pour l'adorer, pour l'aimer, jour après jour. Parce que l'amour et les compassions et la bonté de Dieu ne s'épuisent jamais, mais elles se renouvellent chaque matin, frères et sœurs. Ainsi comme son amour, ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin pour les êtres déchus et corruptibles, que nous restons d'une certaine manière jusqu'à la résurrection de la chair. Chaque matin, ses compassions, chaque matin, elles se renouvellent. Chaque matin, il est l'Emmanuel. Alors chaque matin, si on se souvient de lui et qu'on a une juste et véritable conception de ce Dieu qui a tout donné d'un bout à l'autre, qui est avec nous. Chaque matin, on va bondir. Chaque matin, on va l'aimer. Chaque matin, on va lui dire « Purifie mon cœur, je t'adore !» La sanctification va devenir le désir le plus cher de notre cœur, le moteur de notre vie. On va vouloir être mis à part pour lui. On va vouloir être repris. On va vouloir qu'on nous dise tout ce qui ne va pas pour qu'on soit bien pour notre époux. Et c'est de là seul que ça doit venir. Sinon, on va vouloir faire par nous-mêmes, on va se mettre dans des choses, on va vouloir faire bien pour maman, on va vouloir faire bien pour son épouse, on va vouloir faire bien pour son responsable. Mais où est Dieu dans tout ça? Et parfois, on en vient à l'oublier et à même prêcher la sanctification sans élever bien haut le serpent dans le désert pour que tout le monde soit guéri. La plaie les a frappés, mais Dieu a pourvu pour qu'ils soient guéris. Et on doit élever bien haut le nom de Jésus. Dans n'importe quel réveil, comme le disait ce ferreur Jonathan Edwards, si le nom de Jésus n'est pas glorifié, c'est qu'il y a un problème. Parce que Jésus, il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Il est l'Emmanuel, il est avec nous. Dans n'importe quel réveil, s'il n'y a pas une conviction de péché et une parole marteau et feu qui est prêchée, on se pose aussi des questions. Mais l'un et l'autre vont ensemble. Je suis brisé pour mourir, pour être rebâti, pour renaître. Et vous voyez, bien-aimés, si tel est le juste moteur pour certains, une passion dans leur cœur, l'amour de Dieu dans leur cœur, pour les personnes qui n'ont pas profondément cet esprit d'adoption, vous voyez, cet esprit d'adoration, cette juste conception de Dieu, prêcher la sanctification, ça va faire parfois, ou même souvent, et peut-être même tout le temps, l'effet inverse, à savoir l'éloigner de Dieu. La sanctification, ça veut dire mettre à part. Mettre à part pour qui? Pour Dieu. Dieu, il est saint, il est séparé, on est sanctifié, on est mis à part pour Dieu. On est mis à part pour la Jérusalem céleste, on est mis à part pour le tabernacle de Dieu avec les hommes. Mais pour la personne qui n'a pas cette conception, on va le mettre à part, loin de Dieu. On va le mettre sur un chemin aride, sans eau vive. Un chemin d'œuvre morte. Un chemin de vouloir bien faire. Et par surcroît de vouloir bien faire par soi-même. Pour plaire, vous voyez, à une sorte de tyran pour les plus blessés. Ou un père froid, dur et exigeant pour les autres. Quelqu'un de qui on a presque peur. Quelqu'un pour qui on veut bien faire. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas la révélation de l'Emmanuel dans nos cœurs qui nous fait bondir, qui nous fait sauter. Et c'est pourquoi c'est tellement important de comprendre qu'il est avec nous. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Il faut prêcher l'amour, le vrai amour de Dieu. Quand bien même on entend autre chose, les Écritures nous disent 1 Jean 4, verset 8 à 10. 1 Jean 4, verset 8 à 10. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. L'amour de Dieu, il a été manifesté envers nous. En ce que Dieu, je rajoute, de sa propre autorité, de son propre choix, de son propre désir, a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu est amour. Et c'est en cela qu'il est manifesté, qu'il est venu par lui-même, pour nous, afin que nous vivions par lui. Et cet amour, il consiste en quoi? Cet amour consiste, verset 10, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et ça, ça doit être planté dans notre cœur. Cet amour, il consiste non pas en que nous l'avons aimé le premier, mais il consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, parce qu'on ne l'aimait pas, parce qu'on était loin de lui, mais en ce qu'il, lui, nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et cette base, elle doit être plantée et ancrée dans nos cœurs, cette base de l'amour de Dieu, cette révélation que cet amour consiste non point en ce que nous avons, nous, aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. Sinon, on risque malheureusement de tout comprendre de travers, de mal entendre. La prédication, elle va même faussement nous faire du mal, nous blesser, nous meurtrir, nous mettre dans la peur, le malaise, dans des combats, et même parfois dans des choses pas possibles, vous voyez. Et on va en perdre la simplicité de Christ, comme Paul le dit aux Corinthiens. On va commencer à réfléchir, à être dans des raisonnements qui vont s'élever contre la puissance et la simplicité de l'évangile de Dieu en Jésus-Christ. Alors la prédication, il faut qu'elle produise, comme le disait Jean-Baptiste, un fruit digne de la repentance. Ce dont je parle, c'est sur une base d'une vraie repentance du cœur. Parce que sinon, je ne voudrais pas brosser l'ego de l'Église, vous comprenez, en disant « Dieu est amour, il est avec toi ». Dieu a premièrement un marteau, premièrement une loi qui doit te convaincre et arriver à ce que tu vois l'état de ton cœur pour te briser, pour te faire produire un fruit digne de la repentance, que tu n'apprennes pas à échapper à la colère à venir, comme dit Jean-Baptiste. Qu'elle te donne de descendre sérieusement et profondément en toi pour être clair de l'état de ton cœur. Mais alors, ce Dieu avec nous, il nous crie, frères et sœurs. Il nous crie, sors ! Laisse tomber ton carcan, sors ! Lâche tes pensées, sors et jette-toi sur mon Fils que j'ai donné pour que tu aies la vie. Et vis ! Et bondis ! Sois propulsé ! Je prends un exemple, vous voyez, comme si je donne quelque chose de précieux à quelqu'un. De vraiment précieux. Mais j'ai vraiment à cœur de faire ce don. Et je le fais de tout mon cœur. Quand bien même c'est quelque chose qui peut me coûter, vous comprenez. Et que la personne... Bon, ça peut être des petites choses. Des fois, ça peut être juste une part de gâteau, vous voyez. Ça arrive des fois au milieu de nous. Quand tu as à cœur de faire plaisir à quelqu'un et que la personne refuse ou elle hésite ou elle réfléchit, toi qui as résolu dans ton cœur, comme Dieu a résolu dans son cœur de nous sauver et d'être avec nous, si tu restes à réfléchir et que tu ne te lèves pas pour recevoir, qu'est-ce que la personne va ressentir? Rien qu'un petit bout de gâteau, qu'avec ton cœur tu dis, tiens ma sœur, j'ai à cœur de te le donner. Ah non, non, garde-le pour toi. Ça blesse, ça attriste du moins. Alors que si la personne elle dit, merci, quel plaisir tu me fais et qu'elle croque ce bout de gâteau. Alors là, tu vas dire amen et tu vas être heureux et tu vas te sentir en communion avec elle. Mais Dieu ne nous donne pas un gâteau, il nous donne un grand salut, un immense salut dont on devrait parler. Mais parfois, on peut être sur la chaise de celui pour qui Dieu a tout fait et de réfléchir. Et Dieu nous crie, sors, lève-toi et marche, croque. Croque dans ce gâteau, croque là-dedans. Et c'est idem, c'est ce qu'il y a dans le cœur du Père. J'aimerais qu'on médite quelques instants là-dessus. Vous pouvez prendre avec moi cette parabole bien connue de Luc chapitre 15. En Luc chapitre 15, et on va lire les versets 18 à 24. On ne va pas relire toute la parabole, on prend à partir du verset 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Vous voyez, cet enfant prodigue-là, il a eu une conviction de péché. Elle est claire, elle est nette. Il a eu une profonde conviction de péché. Le marteau, le feu, l'épée, elle est descendue en lui. Il lui dit, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il est complètement convaincu de péché. Il est humilié. Il est humilié. Alors voyez la réaction du Père. Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, il était encore loin. Tu vois, quand tu te repens en vérité, quand tu es encore loin, mais Dieu qui sait même tes pensées avant qu'elles viennent, tu lis le psaume 139, de loin, il te voit revenir à lui. Qu'est-ce qu'il fait le Père? Est-ce qu'il veut que tu réfléchisses, que tu t'humilies, que tu restes dans tes réflexions. Regarde le cœur du Père. Regarde le cœur de Dieu. Regarde le cœur de l'Emmanuel. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Dieu le Père, quand il voit un cœur contrit, humilié, il est ému de compassion. Et c'est le monde à l'envers, frères et sœurs. Mais c'est ça l'Emmanuel, c'est ça que je veux transmettre à vos cœurs. Il court et il se jette sur nous pour nous étreindre, pour nous embrasser, parce qu'enfin on touche au but de son cœur. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Et vous voyez, il voulait dire, « Et traite-moi comme tes autres ouvriers. » Mais le Père ne le laisse même pas finir, frères et sœurs. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à quoi ? À se réjouir. Et ça, bien-aimé, ça doit être planté dans notre cœur. Ça doit être planté dans notre cœur que Dieu, il veut des enfants debout. Dieu, il veut des enfants ressuscités. Comme notre sœur ce matin et tous les jours de sa vie. Dieu, il veut des gens en qui il agit en vérité, mais qui alors sont à lui. Il ne veut pas discuter à toujours avec nous. Il ne veut pas, si j'ose le dire, perdre son temps. Et n'attristons pas son cœur à rester, à réfléchir, à penser. Sautons, frères et sœurs. Sautons. Lâchons prise. Saute de l'avion et laisse Dieu te prendre. Pense pas, est-ce que ton parachute est bien ficelé, est-ce que ceci, est-ce que cela, ou bien si je saute et puis qu'après je suis pas sûr que je peux. Saute ! Sors, dit le Seigneur. Stop, arrête de réfléchir, t'es convaincu de péché. Je veux même plus entendre ta prière maintenant. Je veux te voir debout. Je veux te voir resplendir de la joie, de l'amour. Je veux mettre en toi tous les fruits de mon esprit. Je veux mettre en toi, je veux te revêtir de la plus belle robe. Je veux passer l'agneau de l'alliance. Je veux te voir vivre. Tout ce que je veux, c'est que tu vives, que tu rentres et vite dans la maison. Dieu ne nous juge pas pour qu'on reste dehors, frères et sœurs. Dieu ne nous juge pas pour qu'on reste dehors, mais pour qu'on rentre dans la maison. Et parfois, c'est malheureux, comme vous le voyez, avec la suite qu'on ne va pas lire. C'est que le fils aîné, lui qui était tout le temps là, parce qu'il ne vivait pas, on pourrait le dire, dans une église ravivée, dans un peuple ravivé, il ne peut pas se réjouir. Lui, à qui le Père va dire, « Mais tout ce qui est à moi est à toi. » Et des fois, on a tellement trop cette attitude. Il y a des gens, comme le disait un jour David Wilkerson, qui travaille avec les drogués, vous savez. Il y a des gens, ils ont tué, assassiné des gens, violé des femmes. Ils se sont drogués. Et c'est eux qui bondissent de joie dans la maison de l'Éternel. Et il y en a d'autres qui sont là depuis 20, 30 ans et qui finalement, ils ont même des pensées sur ces jeunes-là que Dieu sauve, à qui Dieu pardonne l'iniquité et qui dansent de dire « Oh, ces jeunes-là !» Oh, ne soyons pas de ces fils aînés qui restent dehors, qui ne rentrent pas dans la joie. On doit garder un éternel cœur d'enfant. C'est à ceux-là, à ceux qui leur ressemblent, que le royaume des cieux est ouvert, ici et maintenant. Et c'est le but de Dieu. Des enfants pleins de sève, verdoyants, qui ont la joie, la plénitude de la joie dans leur cœur. Et qui n'attendent pas d'être tombés, d'avoir fait les pires atrocités pour être pardonnés. Mais qui savent que le but de Dieu, ce n'est pas de pardonner. Il doit le faire. Le but de Dieu, c'est qu'on soit avec lui. Et tout ce qui est à lui est à nous, ici, maintenant. Alors levons nos têtes et regardons vers lui. et nulle part ailleurs. Décrochons intérieurement et adorons-le, louons-le, rappelons son souvenir et souvenons-nous de son nom qui signifie « Dieu avec nous ». Le cœur de ce que je partage là, frères et sœurs, c'est bien de cesser de se regarder, mais on le fait encore tellement, tellement. Même des gens qui bondissent se regardent encore trop et pas assez Jésus. Comme j'en parle hier avec une sœur, un jour j'ai prêché sur le cantique de cantiques. Cette folle d'amour qui cherche son bien-aimé, c'est ça la sanctification. Elle est prête à passer la nuit dehors, à faire tout ce qu'il faut. C'est pas « je dois mourir à moi-même, je dois faire ce sacrifice ». C'est comme celui qui a trouvé la perle de grand prix. Quand il l'a trouvée, il vend tout ce qu'il a. Il n'en a plus rien à faire. Alors oui, on doit prêcher la sanctification. Mais frères et sœurs, recevons la perle de grand prix. Soyons comme cette tsunamite folle de notre prince, frères et sœurs. Prêt à coucher dehors. Et que les gens puissent nous dire, comme ces filles de Jérusalem lui ont demandé, mais... qu'est-ce qu'il a là, ton bien-aimé, pour que tu le cherches pareillement? Qu'est-ce qu'il a? Alors elle commence à décrire son bien-aimé. Alors là, il y a une description qui échappe à la raison tellement elle est folle de lui, vous voyez. Et là, alors ses filles de Jérusalem, elles disent, mais il est où? On va le chercher avec toi. On va le chercher avec toi. Si on pouvait avoir ça dans le cœur, eh bien la sanctification, le fait de mourir à soi-même, le fait d'être humble, le fait d'être dans le feu de Dieu, le fait de prier, coulerait de source. On serait ceux qui exhortent et non pas ceux qui se laissent exhorter. Parce qu'on pourrait qu'exhorter, parce que l'abondance de la vie de Dieu coulerait au travers de nous. Et c'est bien ce que Dieu veut. Regardez à Jésus, regardez à l'œuvre de Dieu qui nous prouve qu'il est amour, qu'il n'est qu'amour et qu'il est avec nous pour nous sauver. Et rentrer dans la maison, cesser de réfléchir, regarder, et rentrer dans la maison, et qu'est-ce qu'ils font dans la maison? Il y a la joie, il y a la vie. Rentrer dans la maison du service aussi. Paul, s'il a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, vous croyez qu'il ne l'a pas fait avec tout son cœur? Il y avait plus de joie à laver ses pieds. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais tant qu'on ne saute pas et qu'on ne rentre pas dans cette vie-là, il y a plus de joie à se lever la nuit pour crier à Dieu. Il y a plus de joie à se lever le matin pour communier avec Dieu que de se dire « il faut que je prie ». Il faut qu'on rentre dans la maison. La personne qui n'est pas dans la maison et celle qui est dans la maison, elles ont une vie 100% différente. C'est un autre langage, c'est une autre vision, c'est totalement différent, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut rentrer dans la maison, même si on n'a pas envie. Ne pensons pas qu'on n'a pas envie. Ne discutons pas avec le père comme le fils aîné. Je crois que le fils aîné, le père ne l'aurait pas forcé, vous voyez. Mais allez, on aurait besoin peut-être dans la chair d'avoir eu des pères ou des mères qui savent nous, vous savez, nous mettre des coups de pied aux fesses, comme on dit. Et ce monde, il fait tout l'inverse, vous voyez. Ce monde, il fait de nous des enfants gâtés qui sont ancrés à la terre, ancrés à la chair, et impossible de s'envoler, vous voyez. Si le père avait pu, il l'aurait pris de force, il aurait dit, hop, allez, viens, tu bois quelque chose maintenant, amenez-lui quelque chose à manger, et réjouis-toi. Le fils aîné, ça se trouve, c'est celui qui aurait fini le plus tard, vous voyez. Mais à se poser des questions, à réfléchir, il était dans son monde. Et on est dans notre monde et on a besoin que perce dans nos cœurs Dieu dit « Attends, maintenant arrête, je suis avec toi, je te ranime, rentre dans la maison, ouvre ta bouche, tu vas voir que je vais la remplir. » Et il la remplira, frères et sœurs, il la remplira. Et quand on aura la bouche remplie, quand on sera dans cette maison, on verra tout différemment. Un autre monde, comme je dis, et je sais de quoi je parle. Il y a plusieurs personnes ici qui pourraient témoigner. On rentre dans le service, on rentre dans la prière, on rentre dans la vie de l'esprit et on se rend compte qu'il n'y a rien de plus beau, frères et sœurs. Il n'y a rien de plus beau, c'est là la seule vie même, de vivre dans l'esprit. C'est là qu'on est heureux, c'est là qu'on, qu'on fait du bien autour de nous, c'est là la vie. Le reste, c'est de la mort, frères et sœurs. C'est de la survie, vous voyez. C'est de la survie. Mais l'Emmanuel, c'est le Dieu de la vie, frères et sœurs. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ma gloire, elle ne sera pas donnée à un autre. Il n'y a pas d'autre forme de vie. Je suis le vivant. Je suis la vie. Alors pourquoi le peuple de Dieu voudrait continuer à survivre, à subir des prédications de sanctification? Que son cœur soit ranimé, que son cœur brûle et qu'il vive. C'est ce que dit le Seigneur à la fin de toute cette loi, de toute cette Torah, je préfère à dire, cet enseignement, cette instruction vivante. Vous lisez dans Deutéronome 30, verset 15, sauf erreur. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la mort ou la vie. Choisis la vie. Est-ce que vous ne sentez pas là l'Emmanuel? Choisis la vie. Tu verras tout autrement et tu te rendras compte que c'était la seule vie digne d'être vécue. Et là, tu vas goûter à quelque chose qui t'empêchera de revenir en arrière. Ce ne sera plus possible. Alors pourquoi attendre? Pourquoi continuer de survivre et ne pas sauter? Saute, saute et rentre dans cette vie de foi. Fais comme Abraham. Quitte tout, va-t'en vers cette patrie, même si tu ne la vois pas. Même si on te parle d'un fils alors que tu as déjà fait ta ménopause comme Sarah et qu'il serait impossible de concevoir. Ne rigole pas, crois, crois. Et tu verras que Dieu va être avec toi, l'Emmanuel, comme jamais dans ta vie. Comme jamais dans ta vie. Alors que Dieu vienne de la même manière qu'il peut venir, écoutez-moi bien, avec sa parole pour juger les sentiments de notre cœur. Et on a besoin que ça descende profondément en nous, n'est-ce pas, pour en être vraiment libre. Sinon, il y a un mélange perpétuel qui reste. On a besoin que ça aille vraiment au bout pour plus être mélangé afin d'être libre. Et bien, de la même manière qu'il vient profondément pour nous dire ces choses, il veut aussi venir en vérité pour nous dire qu'il y a quelque chose en nous, l'amour de la vérité, l'étincelle de la justice, j'écrivais, vous voyez. La vérité du Messie. Il y a quelque chose au fond de toi, mon frère, ma sœur, qui ne pourra jamais te quitter, qui aime Dieu, qui veut le servir. Et Dieu veut venir là aussi au fond pour te dire, lève-toi, marche et marche. Aujourd'hui, mais demain et chaque jour, et je serai toujours avec toi. Et de te dire, tu es quelqu'un. Je ne parle pas de ce nouvel évangile aux États-Unis de self-esteem, vous voyez. Tu es quelqu'un, non. Tu es un être déchu qui est sous la colère de Dieu, qui ne mérite rien et tu fais bien de dire comme l'enfant prodigue, je suis indigne d'être appelé ton fils, toi qui es un Dieu saint. Mais quelle folie, Père, que ton amour, toi qui viens me sauter dans les bras et qui me dit alors, je te recrée, et celui que je recrée en Jésus-Christ. Et ça, c'est mon ouvrage, ce n'est pas la circoncision de la main de l'homme, c'est la circoncision de Dieu. On est, comme vous lisez dans le premier chapitre de Jean, devenus des enfants de Dieu, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit, toi que je recrée, tu es quelqu'un. Il y a un avenir, il y a une espérance, il y a un appel. Cesse de croire que tu es inutile. Parce que tu es en train de dire que Christ est nul, que Christ est inutile. Christ, il est la vie, il est le principe de la création. Et c'est en Christ qu'on est recréé. Alors n'allons pas dire qu'une personne recréée en Christ n'est bonne à rien. C'est bafouer le Fils de Dieu, ça, frères et sœurs. La personne qui est recréée en Christ, le Père vient lui dire, tu es ma fille, tu es mon fils. Je t'aime et je te lance et j'ai prévu des choses pour toi, sans quoi le corps qui est mon Église, le corps qui est le corps de Jésus, ne pourra pas amener au monde ce que je veux lui amener. Donc sois certain que recréé en Christ, il y a un but, il y a une utilité. Et cessons de nous comparer, de nous regarder les uns les autres. Soyons rendus semblables à l'image de Jésus. Devenons cette multitude de frères et sœurs du Messie en vérité. Dieu veut venir chercher ce quelque chose au-dedans de nous. Autant il peut briser ce quelque chose au-dedans de nous, autant il veut venir le chercher et le relever, lui dire et lui parler et lui faire comprendre qu'en Christ il est précieux. Qu'en Christ, le Père veut lui sauter dessus pour l'étreindre. Qu'en Christ, le cœur du Père est réjoui. Vous entendez? qu'en Christ, une nouvelle création en Christ, réjouit le cœur du Père. Le Père se réjouit dans ses enfants, donne et n'aura cesse de donner sa grâce, de donner son amour. Et aussitôt que tu sors de la maison et que tu reviens en toi, tu te coupes toi-même de Dieu. Alors, re-rentre dans la maison et ferme la porte à triple tour. Oh, que vous ressentiez, bien-aimés, ce quelque chose au-dedans de vous qui est fait pour la gloire, qui est fait pour la liberté, qui est fait pour la joie, qui est fait pour la plénitude de la vie, et que ce n'est rien d'autre que cela, votre vie. C'est même pas de servir le Seigneur, ou que sais-je. C'est de vivre en Jésus-Christ, d'être recréé en lui. Hein, si seulement on sera en communion avec le Père, on sera dans sa maison et on priera comme David. S'il y a une chose que je demande, c'est d'y rester tous les jours de ma vie et de te contempler. Ce quelque chose, bien-aimé, il renverse littéralement toutes nos forteresses de mensonges. Ce quelque chose, il est là pour haïr le péché sous toutes ses formes, surtout celles qui sont intérieures à nous. Comme je le disais tout à l'heure avec ce psaume, « Qu'as-tu, mon âme ?» à défaillir. Moi, je vais le louer, mon Dieu. C'est quelque chose en nous, il fait tomber toutes les forteresses, tous les sentiments, toutes les convoitises. Et il bondit dans une vie nouvelle, dans une dimension nouvelle, celle que le corps de péché ne veut pas et qui pourtant est la seule vie, la seule joie et tout ce que tous les chrétiens, s'ils sont sincères, attendent, désirent. Alors rentrons dans la maison et vite. J'aimerais encore dire une ou deux choses importantes avant de conclure, frères et sœurs. Vous voyez, pour replanter le marteau de la vérité de cet amour en nous, la Bible, elle dit « crucifiez la chair ». Mais si, gardez-le dans votre cœur, si ce n'est pas par une injonction de Dieu, si ce n'est pas par l'amour de Dieu, si ce n'est pas par la passion de Dieu, par le feu de Dieu, ou par la douceur de Dieu, par la conviction du Saint-Esprit qui brûle, qui se répand dans notre cœur, c'est un vrai calvaire. C'est un vrai calvaire. C'est horrible. Et croyez-vous que Dieu nous a appelés à être des gens qui sont la tête dans leurs chaussures? Non, la tête levée, des lumières qui sont mises sur la montagne, sur le lampadaire, du sel plein de saveur. Sinon, on n'est bon qu'à être foulé aux pieds. Comme j'en parlais dernièrement, lorsque Jésus dit dans ses lettres aux églises, qu'on lit dans chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, « Soit tu es bouillant, soit tu es froid, mais si tu es tiède, je vais te vomir. » Alors oui, c'est un jugement de Dieu, mais en même temps, tout le monde a au moins une fois vomi dans sa vie. Vous voyez le sentiment qu'on a. Il y a quand même un sacré mal-être quand on est en train de vomir. On se sent mal, quoi. Mais finalement, cette parole, elle pourrait être interprétée comme cela aussi. Dire, mais si t'es pas bouillant, je te vomirai parce que je pourrais pas faire autre chose et tu vas être mal, tu vas souffrir. Alors que si t'es bouillant, tu vas vivre. Tu vas être même le plus heureux de tous les hommes du monde et de toutes les femmes du monde. Et en plus, frères et sœurs, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, si on reste en nous-mêmes à vouloir essayer de vivre des choses par nous-mêmes, c'est quelque chose, gardez-le bien dans vos cœurs, qui est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Vous n'arriverez jamais par vous-même à quelque résultat en Christ, parce que c'est par grâce et non pas par les œuvres que Dieu a choisi de sauver. C'est par le moyen de la foi, une foi qui vous fait sauter dans le vide. Et alors, c'est Dieu qui prend le relais. On est appelé à être sauvé d'un être déchu pour être recréé en Christ. Alors comment cet être déchu, en réfléchissant même à toutes les solutions, pourra arriver à quelque chose? S'il ne fait le constat de Paul, fin du chapitre 7 de la lettre aux Romains, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ. » Ça veut dire par moi-même, c'est impossible. Ça sert à rien que je perde du temps à réfléchir ou à me regarder. C'est impossible. Comme j'écrivais, pour faire un jus d'orange, on a besoin d'orange, non? Si on essaye de le faire avec un lampadaire, avec un micro, avec un piano, on n'arrivera jamais à faire du jus d'orange. Eh bien, il faut voir que c'est tout aussi clair que ça, que par nous-mêmes, on ne pourra jamais être en Christ. Comme le dit la parole, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Et comment tu peux être sauvé? Par la foi. Par la foi. Ça, ce serait une prédication en soi. La foi. La puissance de la foi. La réalité des choses qu'on ne voit pas. Rentrer dans cette dimension de foi. Rentrer dans la maison veut dire rentrer dans cette dimension de foi. Et là, il y a un pas à faire. Et ce pas, le Père ne va pas le forcer. Mais si tu fais ce pas, demandez à notre sœur qui veut témoigner tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait passer de la mort à la vie. C'est un fait et c'est visible. Ça s'entend à la voix, ça se voit au visage. Dieu fait passer de la mort à la vie. Si l'Église ne vit pas ça, quel témoin elle va être pour le monde? Si l'Église reste hors de la maison, si l'Église continue à tourner en rond, à vouloir faire ses propres efforts, qu'est-ce que le monde va penser de nous? Qu'est-ce que le monde va penser de nous? On doit rentrer dans cette dimension de foi pour que la vie de Dieu, la nature de Christ, la grâce de Dieu, cette vie nouvelle de l'amour, de la joie qui vient de Dieu, puisse transformer, bouillonner, j'ai pas le mot qui me vient, transpercer, arriver comme un torrent, se déverser, voilà, dans nos cœurs. Se déverser dans nos cœurs. Alors vous allez voir qu'on va transporter les montagnes. Alors vous allez voir que cette passion qui vient de Dieu, elle te pousse à aller jusqu'au bout du monde. Et alors tout ce qui dans ta vie pouvait paraître embêtant va être un tremplin pour te rapprocher de Dieu. Tout ce que tu vas vivre va être un tremplin. C'est ce que dit Paul. Rendez grâce en toutes choses. Soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses. Je vais vous lire cette parole. C'est 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, en toutes circonstances, en toutes circonstances. Rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Tu ne peux pas. Tu rends grâce pour toute chose. Toute chose te propulse dans un agir de Dieu. On va s'arrêter là et on va lire une dernière parole tous ensemble. Le psaume 146 que nous a partagé notre frère en introduction de ce culte. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Vous voyez, cette créature nouvelle en qui a été plantée la pensée de l'éternité qui va avec le fait qu'il est l'Emmanuel, qu'il est l'alpha, l'oméga, que pour toujours, tant qu'il existera ici-bas et pour toujours, il le louera, il l'adorera. Un tel homme, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ainsi était le cœur de David. Et il loue son Dieu. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas en vous-même. Vous ne vous sauverez jamais par vous-même. C'est mathématique, c'est impossible. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Et vous voyez, j'aimerais terminer par ça et on continuera plus tard. Ce Dieu qui est l'Emmanuel et qui, si tu te lances dans la foi à sa suite, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu majestueux. Il est le Dieu tout à fait grand, tout à fait extraordinairement majestueux pour t'amener là où il veut. Pour t'amener là où il veut. Écoutez, il est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il est le Dieu qui a fait la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Elle la gardera pour toi, mon frère, ma sœur, si tu marches avec lui et que tu gardes ta fidélité dans la foi. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Loué l'Éternel. Père Céleste, je te prie de nous faire vivre ces paroles, de planter en nous ton nom, le nom du Messie, l'Emmanuel, que tu es avec nous, que tu es tout puissant, que tu es tout à fait fidèle. Oh, combien tu veux être avec nous et tu nous veux être ces enfants pleins de sève et verdoyants qui ont la tête levée et tu donnes gratuitement à celui qui le veut l'eau de la vie. Et cette eau, elle se transforme en torrent. Et il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Et elle va jaillir jusque dans la vie éternelle, dans ta gloire éternelle, dans ton tabernacle où tu seras avec nous, tu essuieras toutes larmes, tu auras enfin atteint ton but, toi, ce Dieu d'amour, qui brise pour relever, qui fait mourir pour faire renaître, qui blesse pour panser par ta main. Que ta main soit puissante dans nos cœurs, qu'elle élève bien haut le nom de Jésus, que nous soyons tous des ressuscités à la suite de notre Messie et que nous formions un cortège triomphal, une armée céleste qui se tient debout et qui resplendit de ta joie, de ta vie. Oh, et qu'ainsi, Père, tous nos voisins, tous les gens que nous côtoyons puissent dire « Et qui est ce bien-aimé ? Je veux le chercher avec toi. » Amen.